Vote pour la science avec Isabelle Burgoyne.
Bonjour à vous, j'espère que vous portez bien. Les 25e Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver se déroulent du 6 au 22 février et pour les Paralympiques du 6 au 15 mars à Milan Cortina en Italie. Annoncés comme les premiers Jeux d'hiver carboneutres, ils emboîtent le pas à Paris. Les derniers Jeux d'été de 2024 s'étaient attelés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre à 2 millions de tonnes, soit l'équivalent des Jeux de Tokyo de 2020 qui se sont déroulés sans spectateurs. En plus d'une médaille, la championne de ski acrobatique québécoise Marion Thénault poursuit aussi l'objectif de devenir la première athlète carboneutre. L'étudiante en génie aérospatial de 25 ans calcule ses émissions de GES, les siens et ceux des athlètes de sa fédération, minimise ses déplacements et diminue même sa consommation de viande. Les Jeux d'hiver de Milano Cortina sont-ils vraiment carboneutres et plus verts? Nous en parlons tout de suite. Restez là. À Je vote pour la science aujourd'hui, nous intéressons aux Jeux Olympiques d'hiver qui se déroulent actuellement à Milan Cortina et à la volonté d'être les premiers Jeux d'hiver carboneutres et durables. Pour en parler, je suis en compagnie de Yves-Marie Abraham, professeur au HEC Montréal où il enseigne la sociologie de l'économie et s'intéresse à la décroissance. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages dont « Guérir du mal de l'infini » paru à Éco-Société en 2019. Bonjour.
Bonjour.
Je suis aussi en compagnie de Sébastien Delamarre, conseiller en gestion des gaz à effet de serre à la coopérative de solidarité carbone, qui est un organisme québécois à but non lucratif engagé dans l'accélération de la lutte au changement climatique par l'innovation collective. Bonjour.
Bonjour.
Donc les 25e Jeux Olympiques d'hiver de Milano Cortina en Italie rassemblent actuellement 3500 athlètes, dont 207 Canadiens et 49 Québécois. Ce sont des athlètes de 93 pays, 4 régions et 6 sites italiens, Bormio, Cortina, Livigno, Milano, etc. accueillent 16 disciplines olympiques et 6 disciplines paralympiques, donc du curling au para-biathlon, dont la fameuse piste controversée de bobsleigh spécialement construite pour les Jeux. C'est un territoire de plus de 20 000 km² pour ces Jeux, ce qui pose la question de leur empreinte environnementale, particulièrement des émissions à gaz à effet de serre, les GES. Je vais commencer avec vous, Monsieur Delamarre. Pouvez-vous nous expliquer d'où proviennent les GES des Jeux d'hiver?
Oui, bien sûr. Toute activité humaine génère des émissions. Que ça soit notamment en prenant la voiture, on va brûler du carburant, ou alors en utilisant de l'électricité. Cette électricité, notamment, elle a été de même quand on remonte à la source. Il y a aussi des émissions qui ont été produites. Donc c'est important de prendre en compte tout ça et de les évaluer. Je ne veux pas vous apprendre, les Jeux Olympiques d'hiver ont nécessité de la construction d'éléments, ça génère également beaucoup de déplacements, et tout ça, ça va générer des émissions, et donc ça va contribuer au réchauffement climatique derrière.
À commencer par le déplacement des avions, parce que pour 3500 athlètes qui se retrouvent sur un site, et toute leur équipe autour, et tous les spectateurs aussi.
C'est ça, effectivement, les déplacements des athlètes génèrent de nombreuses émissions, mais ce qui sera encore le plus gros poste d'émissions pour ces Jeux, ça sera notamment le déplacement des spectateurs, notamment les spectateurs internationaux qui vont utiliser beaucoup l'avion pour se rendre sur place. Je pense notamment à tous les spectateurs canadiens et québécois qui voudront y aller. Il n'y a pas beaucoup d'autres options que de prendre l'avion. Ce qui fait que dans nos activités, nous en tant que spectateurs qui voulons se rendre sur place, on va générer des émissions. Et tout ça, ça va venir accentuer le bilan carbone de ces Jeux.
Généralement, les Jeux, c'est à peu près combien? Est-ce qu'on a...
Les Jeux de Milan Cortina ont essayé d'établir le chiffre et ils ont estimé qu'ils généraient environ 1 million de tonnes de CO2. 1 million de tonnes de CO2, c'est l'équivalent de 110 000 Québécois par rapport à nos émissions moyennes. Un Québécois, c'est 9,1 tonnes sur une année.
Okay.
Ça représente à peu près l'équivalent de la ville de Terrebonne.
D'accord, pour l'année?
Pour l'année, oui.
Juste pour cette période-là?
Oui, mais il faut faire attention. ce bilan carbone, ce n'est pas uniquement les activités qui vont se passer dans ces deux semaines. C'est aussi toute la préparation qu'il y a eu en amont, notamment la construction du site de bobsleigh dont vous parlez, mais également la planification, les différents déplacements des parties prenantes qui vont venir installer les choses, qui vont venir contrôler que tout se passe bien. Tout ça, ça génère des émissions et ces émissions ont commencé dès le début, au final, de l'attribution de ces jeux.
Oui, de la danse, finalement.
C'est ça, et ça va se finaliser à la fin de ces jeux. Il y aura même encore des émissions qui seront générées par la suite, notamment pour le démontage des sites ou autre.
Oui, professeur Abraham, à Milano Cortina, il y a 11 installations sportives sur 13 qui étaient déjà là, mais il y a eu de la construction, notamment de l'immense piste de bobsleigh à Cortina. Pouvez-vous nous rappeler comment les infrastructures sportives pèsent sur l'environnement ?
Bon, je crois qu'on vient d'en avoir un premier aperçu, mais j'avoue que je veux réagir déjà à cette idée de carboneutralité des jeux. Enfin, précisément pour les raisons qu'on vient d'évoquer, je ne vois pas en quoi ils pourraient prétendre à la carboneutralité. Peut-être que tu pourras nous en dire un peu plus, mais ça c'est une première chose. Après, il y a la question donc des gaz à effet de serre, donc et ses effets sur le climat, mais il y a bien d'autres dimensions écologiques en fait. Ça, pour moi, c'est un des gros problèmes de l'heure, c'est que quand on aborde aujourd'hui la question écologique, on la réduit à la question climatique, qui est une question dramatique, qui justifierait elle seule bien des remises en question. Malheureusement, le problème est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grave. Alors, quand on se cantonne à la question climatique, on est en fait en train de minimiser le problème. C'est-à-dire qu'on va partir d'un diagnostic qui est tronqué, qui n'est pas le bon
chiffres,
en fait. Et
donc,
alors que donc là, je n'ai pas creusé la question des installations des Jeux Olympiques, mais on peut imaginer qu'il y a bien d'autres dimensions écologiques qui sont touchées que les GES. Donc, c'est surtout sur ce terrain-là que je partirais. Oui. Attention, au-delà des GES, malheureusement, il y a bien d'autres dimensions.
Déjà, une station de ski en soi, surtout actuellement, avec le peu de neige qu'on a, ça pose des problèmes.
En soi, c'est des infrastructures problématiques. Enfin, elles sont déjà des destructions de certains milieux naturels. Donc, c'est sûr que bon, pour moi, le ski, au-delà même du ski de compétition tel qu'il est pratiqué aujourd'hui, est
avec
très problématique.
Avec les déplacements,
ne devrait pas avoir d'avenir.
Oui,
si on rajoute en plus, comme on vient de le dire, les déplacements, hein, c'est majeur. Mais même en soi, comme activité, c'est une activité problématique telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui. Si maintenant on pratique ça sans infrastructure, c'est autre chose.
C'est ce qui est en bas de chez soi.
Voilà. Bon, c'est pas accessible à tout le monde. Après, c'est toute la contradiction. C'est qu'une des raisons pour lesquelles, effectivement, la situation s'aggrave, c'est qu'il y a aussi cet autre critère qui est celui de l'accessibilité, donc d'une forme de justice qui nous conduit finalement à dire il faudrait rendre accessible ça à tout le monde. Bah, peut-être pas. Peut-être qu'il y a des choses qu'on devrait renoncer à faire parce qu'on n'en a pas la possibilité physique. Mais il y aurait plein d'autres activités qui pourraient être tout à fait bénéfiques et plaisantes.
Oui, mais je lisais que l'empreinte carbone individuelle d'une journée de ski s'élèverait environ à 48,9 kg de CO2, ce qui équivaut à un trajet de 250 km en voiture. Donc peut-être, M. Delamar, c'est quoi exactement la carboneutralité versus aussi net zéro, là, parce que c'est ça, c'est le beau jeu qui s'annonce carboneutre, on l'a compris, peut-être que ce ne seront pas vraiment carboneutres, à moins que vous annonciez d'autres choses.
En fait, la carboneutralité, ça se dit d'un acteur, ça peut être une organisation, un individu ou un événement, comme on a ici, qui viendrait compenser l'ensemble de ses émissions.
Okay. Ça ne veut pas dire qu'il n'émet pas, ça veut dire juste qu'il compense.
C'est ça, c'est-à-dire que dans tous les cas, il faut faire attention, carboneutralité ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'émissions. Il y en a, cependant, l'événement, donc là, les organisateurs ont décidé d'acheter des crédits carbone ou alors de passer par des stratégies de compensation différentes pour compenser l'ensemble de ce qu'ils vont produire. Et attention, sur ces Jeux Olympiques, ils ont fait leur bilan carbone en amont pour savoir justement combien est-ce qu'ils devraient acheter de crédits carbone. Et il y a trois catégories qu'ils ont identifiées. La planification et la réalisation des Jeux Olympiques, c'est vraiment le secteur sur lequel ils ont le plus de contrôle. C'est ça. Le deuxième, ça sera la construction de structures permanentes. Celles-ci, ils l'ont mis à part parce qu'ils considèrent que notamment la piste de bobsleigh, ça servira dans l'héritage et ça sera pertinent en dehors des Jeux.
Ouais.
Et enfin, la troisième catégorie, c'est les autres activités associées. C'est ce qu'on appelle des fois la portée 3 dans notre bilan carbone. C'est tout ce qu'il y a autour, mais sur lesquels ils n'ont pas la main totale, notamment le déplacement des spectateurs.
Ah oui.
Et ce qu'ils ont décidé, c'est de compenser cette première partie, donc la planification et la réalisation des Jeux. Dans un dernier rapport que les organisateurs ont fourni, ces émissions s'élevaient à 227 tonnes de CO2. Donc il reste des émissions qui ne seront pas couvertes par la compensation. Ça reste, comme je disais en amont, qu'il y a des émissions quand même qui sont produites, mais les organisateurs font des efforts pour compenser cela via d'autres éléments.
Oui. Net zéro, c'est quoi ?
Oui, alors je vous l'avais évoqué par courriel. Le net zéro, c'est quelque chose qui serait plus ambitieux. C'est-à-dire que c'est c'est un engagement que peuvent prendre des organisations, encore une fois, où ils essaient de réduire au maximum leurs émissions pour ensuite compenser seulement ce qui est résiduel, les émissions qu'on ne peut pas supprimer. Si on les supprimait, on supprimerait l'activité, ce qui n'est pas le but. Ouais. Et donc, c'est plus ambitieux, plus compliqué à faire également, mais si on arrivait à faire ça, ça serait le mieux. D'ailleurs, dans la carboneutralité, une autre manière aussi de devenir carboneutre, ça pourrait être de réduire ses émissions. Cependant, on est carboneutre à partir du moment où on les compense. C'est-à-dire que techniquement, si on produit beaucoup d'émissions, même si on ne fait pas d'efforts pour les réduire, on peut quand même se dire carboneutre si on achète des compensations.
Je vois le professeur Abraham qui sourit à cette explication. En fait, ce que je comprends, c'est que c'est pas vraiment le sport qui pose problème, et peut-être qu'il y aurait des sports plus problématiques que d'autres pour l'environnement, mais c'est un petit peu comme on voit ça, la consommation à outrance, le déplacement à outrance.
Ouais, donc je conteste pas du tout la définition qu'il vient de donner, elle est très juste, et merci, elle était très claire. C'est l'idée de compensation notamment qui soulève un tas de problèmes que j'imagine vous connaissez même mieux que moi. Ces compensations, il y a quelque chose de fallacieux en disant bah finalement regardez on a compensé, tout va bien en fait. Donc, ouais. Donc c'est-à-dire on peut continuer à détruire du moment qu'on a les moyens d'acheter des crédits à des émetteurs de ces crédits. Il y a aussi plein de problèmes qui sont attachés à ces émissions de crédits carbone. Il y a des populations qui sont aujourd'hui soumises à des contraintes lourdes pour que précisément on puisse continuer à émettre ces crédits carbone, mais ça conditionne que la condition c'est qu'elles ne puissent plus se servir de certains territoires, par exemple forestiers, comme elles le faisaient de manière traditionnelle, parce qu'il faut garantir que on a maintenu un espace dans un état
initial.
Enfin bon, c'est l'idée qu'il y a des pertes. Voilà. Donc et ces pertes, c'est assez simple. Dès qu'on est dans une logique d'industrialisation, qui elle-même est la conséquence de la marchandisation, on est dans la dégradation. C'est le constat qu'on fait et qui justifie aujourd'hui l'idée de décroissance. C'est que si on veut vraiment arrêter la dégradation écologique, ce qui est en jeu là dans vos questions, finalement c'est de produire moins. C'est la première exigence en fait. Donc, et pour réduire ces émissions, effectivement produire moins c'est pas mal le plus efficace en fait. Donc alors c'est ça. Après comment est-ce qu'on fait ? Ça impose de réorganiser complètement nos sociétés. Donc c'est gigantesque, c'est énorme. Mais si on prend au sérieux la question écologique, c'est là-dessus qu'on débouche.
Oui. Est-ce qu'il y a des sports quand même qui sont moins... justement, problématique que d'autres, on va dire, pour la planète.
Moi, j'en vois pas de problématique en eux-mêmes, en fait. Mm-hmm. Je pense que... il y a peut-être quand même... Bon, c'est vrai que le sport automobile, par exemple, ça me traverse.
Oui, la Formule 1.
Là, on a quand même quelque chose qui incarne un peu le pire. Enfin, c'est en plus symboliquement... Enfin, c'est et probablement quelque chose qui devrait... Mais même, on pourrait imaginer des patenteux qui s'amusent à fabriquer quelque chose comme des automobiles avec d'autres techniques. Il y a quelque chose de pas forcément inintéressant là-dedans. Donc moi, je ne critiquerai aucun sport. Ce que je critiquerai, c'est leur marchandisation et leur industrialisation. C'est vraiment ça qui est problématique. Après, on peut très bien faire... Le sport est quelque chose de tout à fait magnifique. Les Jeux Olympiques, une partie de leurs principes sont tout à fait magnifiques. Mais avant de venir, j'ai quand même pris le temps de relire la devise olympique qui fait un peu peur, effectivement, qui est très, très croissanciste, puisque c'est plus haut, plus vite, plus fort. Ouais. Donc, effectivement, ça résonne quand même très, très croissanciste. Donc, il y a un petit problème. Mais c'est une devise récente. Mais sinon, l'idée même de se rencontrer, de s'affronter symboliquement dans des activités.
Il
y a quelque chose de très beau et de très nécessaire. En fait, on va sublimer une agressivité qui est humaine aussi. On va sublimer tous nos nationalismes aussi qui posent toutes sortes de problèmes. Mais si on les assume et qu'on dit, on va s'affronter entre nations avec des représentants, il y a quelque chose de pas si mal à défendre. C'est vraiment l'industrialisation et la marchandisation qui sont au cœur du problème.
Ouais, je vous parlerai pas des mascottes Tina et Milo finalement, ou des vêtements de sport qui généralement autour de l'événement lui-même, on remarque qu'il y a la consommation qui suit là ou qui précède et qui encourage. En fait, ça encourage aussi ça. Donc, une récente étude menée par le professeur Daniel Scott de l'Université de Waterloo et son collègue pour le Comité international olympique avance que sur les 93 sites avec des infrastructures de haut niveau pour les Jeux d'hiver, seulement 52 pourraient avoir assez de froid et de neige pour les accueillir en 2050 et seulement 30 en 2080. C'est un scénario modéré de réchauffement. Pour un scénario avec des émissions de GES élevées sur 19 sites olympiques, seulement 10 ou 11 sites pourraient accueillir les Jeux en 2050 et 6 pour 2080. Monsieur Delamarre, rappelez-nous quelles sont les conséquences des changements climatiques sur les sports d'hiver.
Non, bien sûr, encore une fois, je pense que c'est évident, mais les Jeux olympiques d'hiver doivent avoir de la neige pour participer. Actuellement, ce réchauffement climatique, notamment ceux des Jeux de Milan, prévoit que potentiellement 2,3 km² de couverture de neigeuse pourrait disparaître à cause des émissions émises par les JO. Ouais. Et aussi 14 millions de tonnes de glaciers pourraient aussi fondre à cause de ça. Donc on se rend bien compte que c'est un peu un paradoxe, mais les Jeux Olympiques d'hiver qui sont là pour promouvoir les sports d'hiver les mettent également en danger. Et c'est pour ça que particulièrement les Jeux Olympiques, mais également les Jeux Olympiques d'hiver en plus particulièrement, devraient vraiment faire des efforts pour faire attention à ça, parce qu'ils menacent en même temps leur existence à l'avenir s'ils ne s'adaptent pas. Et c'est le cas des Jeux Olympiques, mais c'est le cas de tous les événements. Même l'été, on a le réchauffement climatique tout court. C'est beaucoup plus compliqué courir un marathon quand il fait 35 degrés que quand il en fait 25.
C'est sûr.
Et c'est aussi une problématique qu'on voit, que tous les sportifs que vous êtes, vont aussi rencontrer dans leur pratique quotidienne.
Oui, il y a le verdissement des pistes de ski. Il y a aussi plus de neige artificielle. J'entendais que ça nécessite l'eau de centaines de piscines olympiques pour ça. Il y a l'annulation aussi de compétitions, des chutes, des blessures, même pour les athlètes eux-mêmes. Ce n'est pas facile. Cette étude montre aussi que ça pourrait être pire pour les Jeux paralympiques qui se déroulent un mois plus tard. En mars, seulement 22 sites seraient disponibles en 2050 et 16 sites en 2080. Les experts recommandent donc d'avancer les Jeux olympiques de 3 semaines dans un futur ou de tenir les Jeux sur des sites permanents aux conditions plus favorables. Professeur Abraham, quelles sont les leçons des changements climatiques qu'on pourrait tirer pour ces Jeux d'hiver ?
Concernant les Jeux, je n'en sais rien, mais bon, là, ça vient d'être dit, il y a quelque chose de très paradoxal, en fait, à peu près comme dans le tourisme, en fait, où on va aller chercher des lieux exotiques, des lieux différents de ceux qu'on connaît, mais qu'on va contribuer à détruire, finalement. Donc, cette différence et cette altérité, on va la détruire. Là, on a besoin, effectivement, de neige, de froid, et on va contribuer à faire disparaître ce froid et cette neige. Donc, ça illustre assez magnifiquement le premier chapitre de mon bouquin que vous avez la gentillesse de citer tout à l'heure. Cette logique de croissance, elle est d'abord autodestructrice, en fait. On est vraiment en train d'autodétruire notre monde. Alors, le problème, c'est que on va aussi en subir les conséquences. Les plus démunis vont sans doute les subir plus vite. Ils les subissent déjà. La catastrophe, elle est déjà subie par beaucoup de monde, mais ça va accélérer. Donc voilà, c'est vraiment cette logique. C'est une belle illustration de cette idée de tendance autodestructrice aujourd'hui de ces sociétés de croissance ou ces sociétés industrielles.
Oui, des sociétés dans lesquelles on est. Les Jeux de Salt Lake City en 2030 veulent intégrer l'action climatique dans le sport, celle du programme des Nations Unies, Sport for Climate Action. Monsieur Delamarre, qu'est-ce que l'organisation des JO met en place pour justement réduire ces émissions ?
Oui, comme vous l'avez mentionné, il y a quand même beaucoup d'efforts qui ont été pris sur le fait de ne pas construire de nouvelles structures.
Oui.
La piste de bobsleigh est un contre-exemple, mais il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites. C'est pour ça notamment qu'on a 6 sites de compétition principaux, alors qu'habituellement on n'en avait que 1 ou 2, un site plutôt urbain et un site plutôt en montagne.
Oui.
C'est déjà un bon pas en avant. C'est d'ailleurs la politique des Jeux maintenant. On n'adapte plus le territoire aux Jeux, c'est les Jeux qui s'adaptent au territoire. Et c'est vraiment un premier pas en avant assez important qui est fait. Ensuite, plus spécifiquement sur les Jeux Olympiques, on a aussi beaucoup d'efforts qui sont faits sur l'électrification. On essaie de concentrer sur l'électricité qui est produite par des sources renouvelables.
Comme ce qu'on a au Québec finalement.
Totalement. Même si l'hydro est moins présent, ils ont d'autres sources, notamment éoliennes ou solaires, qui permettent de compenser. On essaye aussi de privilégier la réutilisation d'équipements sportifs. On avait les Jeux Olympiques de Paris en 2024. Il y a beaucoup de choses, notamment de panneaux publicitaires ou autres, qui ont pu être reportés et puis réutilisés, retransformés pour les adapter aux CJO. On a aussi des efforts qui sont faits au niveau de la nourriture qui est servie. On essaie de se concentrer sur des choses locales, de saison, et aussi de pousser la part de nourriture végétarienne dans l'ensemble des nourritures servies. Et enfin, un autre exemple, ça serait le fait de se concentrer et de pousser la mobilité locale, notamment en privilégiant les transports publics, plutôt que de multiplier les véhicules à essence qui pourraient se déplacer.
Okay. Il y a aussi les athlètes, parce que je voyais que Marion Thénault, la skieuse acrobatique québécoise, veut être carboneutre. Est-ce qu'il y a une responsabilité pour les sportifs eux-mêmes de s'engager là-dedans ?
Bien sûr. Si on regarde ces Jeux Olympiques, c'est en principal, la principale chose, c'est pour les sportifs. Donc, eux sont les principaux acteurs. C'est eux qui peuvent s'engager. On ne peut pas obliger tous les sportifs à s'engager pour pouvoir changer les choses, mais des sportifs comme Marion Thénault font beaucoup de choses là-dessus. Marion Thénault en particulier essaie de regarder l'ensemble de ses déplacements sur l'année pour essayer de voir si on peut aller compenser. Elle essaie aussi de travailler avec la FIS pour essayer de remanier le calendrier. La fédération de ski, pour essayer de remanier le calendrier, pour éviter de faire des grands allers-retours. Vous le citiez tout à l'heure, dans le sport automobile, on voit des fois des allers-retours entre l'Europe et le Canada, notamment pour les compétitions. on essaye de plus en plus de faire un circuit plutôt rond, plutôt que de faire des grands allers-retours entre des distances très grandes. Là, on parle plus sur le long terme, sur une carrière complète. Les Jeux Olympiques, c'est un événement tous les 4 ans. Mais des athlètes qui s'engagent comme ça peuvent peut-être faire changer les choses.
À tous les ans, finalement. Professeur Abraham, est-ce que le comité organisateur qui avait promis des Jeux plus durables va être capable de tenir ses promesses, selon vous?
Ben, on vient d'apprendre que non. Ben, peut-être plus durables que les autres. Donc là, on est sur des logiques finalement réformistes hein, qui sont valables. Il n'est pas question de dire que ce n'est pas des tentatives intéressantes. Simplement, la position que je tiendrai par rapport à ça, c'est que c'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'on continue à espérer pouvoir faire tenir ce monde tel qu'il est en agissant finalement à la marge. Mais on remet pas en question ce monde. Or, il faut remettre en question si on tient à la question écologique. Après, on peut aussi s'en moquer de la question écologique. Mais si on la prend au sérieux, malheureusement, aujourd'hui, on sait que là où il y a croissance économique, il y a destruction. On ne sait pas générer quelque chose comme une croissance verte ou propre. Et les JO font partie du problème. Ils rajoutent même en quelque sorte des problèmes. Bon, mais ils font partie de cette logique de croissance. Donc, Voilà le diagnostic qu'on pose au départ, donc c'est un peu perdu d'avance.
Ça ne peut pas être un tremplin justement pour l'atteinte des objectifs de développement durable de l'ONU?
Ces objectifs de développement durable sont problématiques eux-mêmes, ils sont problématiques, ils incluent la croissance parmi les objectifs. C'est le 7e ou le 8e, je ne sais plus, c'est travail et croissance. Donc en fait, l'ONU n'a absolument pas pour l'instant vraiment questionner cet impératif de croissance qui est au cœur de notre civilisation et de nos sociétés. Le GIEC commence à le faire, par contre. L'IPBES, qui est l'équivalent du GIEC pour la biodiversité, qui est quelque chose dont nous n'avons pas parlé, mais qui est une dimension écologique majeure, qui est très, très certainement affectée par ces infrastructures sportives, l'IPBES commence aussi à dire que si on veut vraiment aussi arrêter la dégradation de la biodiversité, l'érosion de la biodiversité, la meilleure des solutions, c'est effectivement de ralentir l'activité économique, c'est-à-dire de produire moins que ce qu'on produit.
Oui, de le tenir peut-être aux 8 ans plutôt qu'aux 4 ans, je plaisante. Monsieur Delamarre, il faut aussi parler des émissions des spectateurs et des commandites. Ça, des fois, on n'en fait pas mention, mais...
Oui, comme je mentionnais, dans les catégories qu'on considérait les Jeux Olympiques, il y a cette troisième catégorie liée aux autres activités. Les spectateurs ont été pris en compte là-dedans et on se rend compte que ça peut représenter jusqu'à 400 000 tonnes de CO2. Juste le déplacement et les activités, bien sûr, des spectateurs sur place ou autre. Donc c'est un poste d'émission qui est très important. C'est sûr que les Jeux Olympiques ne peuvent pas obliger les spectateurs à faire telle chose, à venir de telle manière, mais il y a peut-être des stratégies pour essayer de viser potentiellement plus localement. Je pense notamment, on a l'exemple du marathon de New York qui fait déjà ça. Ils choisissent, il y a un tirage au sort qui est utilisé pour pouvoir vendre les places. C'est-à-dire qu'on participe à une grande loterie, on est tiré au sort, on peut acheter ensuite les billets qu'on veut. Ils pourraient inclure notamment un facteur qui donnerait plus de chance aux personnes qui habitent dans les environs pour les avoir. On pourrait considérer
moins de déplacements.
Exactement, ça permettrait de diminuer les déplacements. Il y aurait peut-être ensuite un enjeu sur le fait que les jeux sont plutôt accessibles à tous, mais comme vous le disiez, c'est important de commencer à réfléchir plus sur du long terme plutôt que se dire on veut essayer d'inclure tout le monde et autres. Le fait aussi de tourner, comme on l'avait dit, les Jeux Olympiques sur des sites déjà existants, ça permettrait de se dire oui, j'ai peut-être pas mes Jeux Olympiques à moi que je peux aller voir tous les ans, mais au moins j'en aurai peut-être un qui viendra une fois tous les 12 ans à proximité où je pourrai aller voir. Mais j'accepte en tant qu'individu de ne pas aller voir tous les Jeux Olympiques, et on parle des Jeux Olympiques d'hiver, mais les Jeux Olympiques c'est tous les 2 ans si on alterne entre été et hiver.
Et les commandites?
Oui, les commandites participent à cet événement avec beaucoup de financement, et c'est certain qu'il y a il y a différents types de commandites, certains qui sont vraiment engagés dans le climat et d'autres qui ne le sont pas encore et qu'on leur souhaite qu'ils le soient à l'avenir. Ça pourrait être une stratégie également d'aller se tourner vers des commandites qui soient engagées, qui souhaitent diminuer également leurs émissions pour les mettre de l'avant. Les Jeux Olympiques, c'est l'événement le plus suivi dans le monde, et donc c'est une vitrine pour les événements. Bien sûr, à une échelle énorme, c'est sûr que je pense au festival Oceaga qu'on peut avoir à Montréal ou à d'autres festivals, le Grand Prix cycliste de Montréal notamment. On a des petits cyclistes qui sont à notre échelle, qui sont quand même des grands événements. Mais si les Jeux Olympiques font des efforts et montrent des belles choses, font déjà dans le bon sens, moi je suis convaincu qu'avec la visibilité qu'ils ont, tout effort qu'ils peuvent faire et qu'ils peuvent transmettre à d'autres événements, ça participe quand même à la décarbonation. Même si on s'entend, l'organisation des Jeux Olympiques et le fait de toujours vouloir faire plus grand, ça peut poser problème.
Oui. Professeur Abraham, est-ce qu'on pourrait imaginer le sport sans industrie? Un sport peut-être moins dans la consommation et plus dans la pratique?
Bah oui, c'est pas très difficile à imaginer. En fait, en soi, ça supposerait qu'on soit dans un autre monde quand même, mais en soi, ces sports sont pas difficiles à imaginer. En même temps, c'est une activité, c'est vrai, assez particulière, qui émerge avec le monde moderne aussi, donc c'est à questionner. Personnellement, j'irais plus loin en disant que ce qu'il faut, c'est s'inventer des vies dans lesquelles l'activité physique s'associe avec l'activité intellectuelle. Aujourd'hui, on a des vies qui sont segmentées. La plupart d'entre nous, nous passons nos journées assis sur un siège devant un ordinateur aujourd'hui, quel que soit le métier. Ce qui nous force, si nous voulons rester à peu près en bonne santé, effectivement à faire du sport. Ça, c'est pas des bonnes vies. C'est une bonne vie serait une vie dans laquelle, effectivement, au cours d'une journée, naturellement, pour faire ce qu'on a à faire, on va mobiliser notre corps et notre esprit et combiner les deux. Donc faudrait encore aller plus loin. Maintenant, le sport est pour l'instant quand même reste quelque chose de tout à fait bénéfique et praticable, je dirais, à moindre coût dans bien des cas. Pas tous. Faudrait faire le tri après.
On va se mettre en mode solution. Monsieur Delamar, le comité olympique s'est engagé à restaurer les écosystèmes, à reconvertir les sites temporaires, à compenser l'ensemble des émissions résiduelles, donc par l'achat de crédits carbone. Est-ce que ça sera suffisant ?
Pour atteindre la carboneutralité de tout l'événement, non. Comme on l'a dit, ils se concentrent sur ceux qu'ils ont la main. Après, on ne peut pas leur reprocher. Ils ne peuvent pas compenser les émissions de tous les spectateurs.
Est-ce que c'est à chaque spectateur de compenser ses émissions, alors ?
Effectivement, on pourrait encourager les spectateurs aussi à prendre en compte. Ils participent à cet événement indirectement, en se déplaçant, en consommant également le... on parlait tout à l'heure de tous les objets promotionnels qui sont mis en vente. On est, par le fait de regarder, d'aller assister, on est également... partie des émetteurs. Et chaque personne peut compenser ses émissions. Lorsqu'on décide notamment d'aller en France, par exemple, de faire un aller-retour entre Montréal et Paris, on va produire des émissions en prenant l'avion. Ces émissions-là, on peut les compenser. Encore une fois, on peut penser ce qu'on veut, les crédits compensatoires, c'est une manière de réduire ces émissions ou à minima de les compenser. Et il existe différents crédits compensatoires, et notamment de très bons au niveau du Québec, des crédits compensatoires qui passent notamment par l'absorption de crédits de carbone. Le plus simple, on parle de crédit carbone depuis tout à l'heure, mais je ne l'ai pas expliqué. Un crédit carbone, c'est le fait d'acheter ou d'investir dans une solution qui permet d'enlever une quantité équivalente de
GES.
De GES, exactement. Par exemple, le plus simple et celle auquel on pense tous, c'est payer pour pouvoir planter des arbres qui vont venir sur le long terme absorber tout ce carbone. Ben, on peut tous le faire en allant acheter ces émissions. Et c'est aussi notre responsabilité, lorsqu'on décide d'aller à un événement comme ça, de se dire... Si j'y vais, moi aussi, j'ai un rôle à jouer dans le changement climatique. Et donc, soit je décide de ne pas y aller, soit j'y vais quand même, mais j'essaie de faire des efforts pour les réduire à d'autres endroits ou je décide de les compenser.
Oui. Professeur Abraham, je vais terminer avec vous. Faut-il avoir, rapidement, faut-il renoncer à avoir ce type d'événement sportif à grand déploiement ?
Je pense, oui, fondamentalement, ça fait partie de la solution. Avec des formes de relocalisation qu'on commençait à esquisser tout à l'heure, oui. En soi, la rencontre est chouette. Je pense qu'il y a quelque chose à garder là-dedans, mais par contre, dans sa dimension industrielle, qui a besoin des spectateurs ? Ils ont absolument besoin de spectateurs. Ils n'existent pas sans ces spectateurs. C'est là où il y a quelque chose qui nous coince un peu. Et les compensations dont on vient de parler un instant, acheter la promesse de faire pousser une forêt, c'est pas la même chose que de détruire une forêt ancienne qui existe. La question de le terme même de compensation, pour moi, il est un peu fallacieux. Donc attention à ça. Pour l'instant, si on continue dans cette direction, on continue à détruire.
Entendu. Ben, merci beaucoup. On était en compagnie d'Yves-Marie Abraham, professeur au HEC Montréal, où il enseigne la sociologie de l'économie et la décroissance, et de Sébastien Delamar, conseiller en gestion des gaz à effet de serre à la coopérative de solidarité carbone. Merci à tous les deux.
Merci beaucoup.
Voilà, c'est tout pour l'émission d'aujourd'hui. Je vote pour la science est une production de Science Presse avec Radio VM, à la régie Daniel Forta, à la recherche, la réalisation et le micro Isabelle Burguin. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous. Réécoutez aussi l'émission durant cette semaine et suivez pour ne rien manquer la page de Je vote pour la science sur le site de Science Presse. En attendant de se retrouver, je vous souhaite à tous et à toutes de passer une très belle semaine à notre antenne.
Jing Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique.